Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la marque la plus connue au monde, celle qui dégage le plus de bénéfices. Tant je vous aurais précisé qu'elle vend à peu près plus de 2 milliards de boissons à travers le monde chaque jour, vous aurez compris qu'il s'agit de Coca-Cola. Coca-Cola voit le jour le 8 mai 1886 dans sa pharmacie d'Atlanta. La capitale de la Géorgie, Joseph Jacobs propose une nouvelle boisson à ses clients. Je vous promets qu'elle soulage l'épuisement physique et moral. Venez goûter à ce breuvage aux vertus miraculeuses et ça ne coûte que 5 cents. Joseph Jacobs est juif. Ses parents sont arrivés d'Allemagne. Il est l'aîné d'une famille de 11 enfants. Joseph Jacobs est né à Chicago, mais sa famille décide de s'installer à Athens, un village de 6 000 habitants à une centaine de kilomètres d'Atlanta. Les Jacobs sont religieux, mais dans un premier temps, faute d'argent, ils vont prier dans l'atelier du forgeron. Mais la communauté juive s'agrandit et une synagogue est inaugurée en 1872. Gabriel Jacobs, le père de Joseph, devient le rabbin et le professeur de Talmud Torah. Joseph Jacobs fait des études de pharmacie et s'installe à Atlanta, où il va ouvrir 6 officines. C'est à ce moment qu'il fait la rencontre de John Pemberton, un pharmacien lui aussi. Pemberton a été gravement blessé pendant la guerre de Sécession. Il souffre de douleurs presque permanentes et atroces. Et pour essayer de les calmer, il invente un mélange de vin et de feuilles de coca. Mais le maire d'Atlanta interdit la vente libre d'alcool. Pemberton remplace le vin par du sucre, ajoute des noix de cola, de la caféine et de l'eau gazeuse. Pemberton prend alors contact avec Jacobs. Vous avez la plus grande pharmacie de la ville. Je vous propose de vendre en mon nom cette boisson. Vous pourrez dire que c'est un médicament, mais que c'est aussi un soda. Jacobs accepte, mais le premier jour, il ne vend que 9 verres. Mais les ventes vont décoller très vite grâce à Frank Robinson, un des associés de Pemberton, qui publie dans le journal local une publicité. La publicité est des plus simples. Appelons cette boisson Coca-Cola, puisqu'elle contient du coca et du cola. John Pemberton vend son affaire, mais ses successeurs, grâce à une publicité agressive, vont bientôt couvrir tous les États-Unis et une grande partie de la planète. Les Juifs américains, eux aussi, ont envie de boire du Coca-Cola. Le rabbin Tobias Geffen d'Atlanta va obtenir la cachérisation du coca en 1935. Alors que la recette du coca est l'un des secrets les mieux gardés du monde, l'entreprise confie au rabbin la liste des ingrédients. Il obtient que la glycérine végétale remplace le suif de bœuf qui n'est pas cachère. Le rabbin va même obtenir un deuxième succès pour Pessah. Coca remplace les édulcorants à base de grains par d'autres à base de sucre de betterave et de canne, sans compromettre le goût du coca. Mais dans le même temps, Coca commence à commercer avec l'Allemagne, qui représente le deuxième marché après les États-Unis. Le président de Coca devient un intime de Goering et de Goebbels. Coca sponsorise les Jeux olympiques de Berlin en 1936. Coca multiplie les publicités dans les magazines consacrés à Hitler, à l'armée allemande et à la radio. Mais le vent tourne. Les États-Unis empêchent l'importation des denrées nécessaires pour fabriquer Coca en Allemagne. Les dirigeants allemands de Coca cherchent un produit de substitution. Ils vont inventer en 1940 Fanta, qui sera produit jusqu'à la fin de la guerre, avant que la maison mère américaine récupère la production. Mais les malheurs de Coca ne se sont pas arrêtés là. En 1967, Coca-Cola ouvre sa première usine en Israël. Aussitôt, la Ligue arabe décrète le boycott du soda. Il faudra attendre le traité de paix entre l'Égypte et Israël en 1979 pour que les Égyptiens puissent enfin goûter au coca. Et c'est en 1991 que toute la Ligue arabe abolira le boycott de Coca-Cola. Oh!